J'aimerais d'une certaine façon continuer un petit peu ce que j'avais partagé les semaines précédentes. Et dimanche dernier, je parlais de la communion. Communion avec Dieu, communion les uns avec les autres dans tous les niveaux de nos vies. D'ailleurs, après ce petit moment-là, si vous avez éventuellement des retours, des témoignages, j'avais lancé un petit défi, hein, pour ceux qui étaient présents ou qui ont écouté, qui était... comment je pourrais cette semaine vivre la communion fraternelle d'une façon que j'ai encore jamais pratiquée, quelque chose de nouveau, quel que le soit. Si vous avez un retour là-dessus, que ce soit sur, pour nos amis qui sont chez eux ou ceux qui sont présents ici, tout le monde peut intervenir. Hein. Et puis, le sujet de ce matin m'est venu par plusieurs choses. Jean-Jacques me nourrit avec des très très bons messages qu'il m'envoie à écouter. Et comme sur mon chantier, j'ai du temps, je les écoute les uns après les autres. Et c'est toujours une bonne source de réflexion. Et il y a un aspect de ce qu'il m'a envoyé, qui est une réflexion sur la richesse et la bénédiction. On en reparlera peut-être une autre fois. Et la place de la Suisse là au milieu, c'est très intéressant. Mais aussi le fait que dans ce que je vis actuellement sur mon chantier et compagnie, je suis très 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 touché, en général ici, parmi vous, par la générosité de tout le monde qui vient m'aider, qui m'aide ça, qui m'apporte ça, qui fait ça, qui prend de mes nouvelles, qui vient. Et je m'aperçois que c'est même difficile des fois à recevoir autant de gentillesse, d'aide, d'amour, de soutien. Et je me dis, il y a des pasteurs qui se plaignent. Moi, j'ai la chance de vivre dans une communauté qui est généreuse. Ça se traduit d'ailleurs aussi par les finances, hein. La taille de notre église, les finances qui rentrent, c'est incroyable. Vous êtes des gens généreux financièrement, matériellement, etc. Et je réfléchissais à ce sujet et je me disais, mais c'est vraiment, la générosité est une caractéristique de Dieu. Hein. Dieu est juste, Dieu est saint, Dieu est amour et Dieu est généreux parce que Dieu donne en permanence sans s'appauvrir, ce qui est magnifique. Et Dieu avait cette générosité, on parlait au passé de Dieu, c'est compliqué, hein, mais a cette générosité depuis toujours, même avant que nous soyons là, hein, dans le mystère de la Trinité, puisque chacun peut donner aux deux autres qui est lui-même, ça nous dépasse complètement. Mais cette générosité, ce n'est pas juste une action de Dieu, c'est une émanation de qui il est. Et en tant que citoyen du royaume de Dieu, nous sommes appelés à vivre la générosité. Et c'est quelque chose de magnifique. Et je pensais qu'on pourrait aller encore un peu réfléchir un peu plus à ça. Pourquoi j'ai choisi le chant de Kenji Girac, je vous ai dit. En fait, ma fille aime beaucoup ce jeune homme qui a du succès auprès des jeunes filles, qui est un jeune gitan, qui était croyant. J'avais vu des vidéos de lui avant qu'il soit célèbre, hein, où il jouait de la guitare dans son campement avec des cantiques. Et puis tout d'un coup, il devient très célèbre, il vend des albums, il fait des concerts, etc. Ça devient une star française, mais même à l'étranger. Et puis, il sort son dernier album, et on l'écoute sur Deezer, ma fille veut l'écouter dans la voiture. Et puis elle dit, oh, celui-là, ça doit être intéressant. Et elle clique dessus, et c'était le morceau « Oprends mon âme ». Alors j'ai souri parce que Lisa me dit « Mais qu'est-ce que c'est ça ?» Je dis « C'est un cantique que ta grand-maman chantait. » Et moi aussi quand j'étais petit. Et j'ai trouvé intéressant, il ne fait pas un discours, il ne prêche pas, il ne dit pas « Je suis chrétien », etc. Mais quelqu'un qui a du succès, qui est jeune, qui plaît à un certain public, et il met ce chant-là dans son album. Et je trouvais que c'était de la générosité. Voilà, il le chante de tout son... Il le chante très bien, je trouve d'ailleurs. Alors, on aime, on n'aime pas sa musique, ce n'est pas le sujet. Mais je trouvais ça intéressant, et c'est pour ça que j'ai choisi de vous le passer. Et puis, l'autre morceau de Laura Gagné, je vous l'ai déjà fait écouter plusieurs fois, mais ça fait partie de mes morceaux chouchous du moment. Je l'aime beaucoup parce qu'il, dans le refrain, à chaque fois, il dit « Si tu cherches, tu me trouves ». Et puis, en fait, il nous montre que ce qu'on cherche, ce n'est pas souvent ce dont on a besoin. Parce qu'il dit « Tu cherches le calme ». Et je suis la paix. Tu veux la joie, et je suis la vie. Tu as peur de la mort, je suis l'espoir. Tu as craint le vide, et je suis l'amour. Et on va voir comment l'absence de générosité vient en fait essentiellement du fait qu'on ne cherche pas ce qu'il faut. Donc, comme je disais, la générosité, c'est une caractéristique de Dieu. Jacques, qui parle beaucoup des questions pratiques dans la Bible, comment on vit les uns avec les autres, l'économie et toutes ces choses-là, il en parle. Et il nous dit ceci, « Tout cadeau de valeur, tout don parfait nous vient d'en haut, du Père qui est toute lumière, et en qui il n'y a ni changement, ni ombre due à des variations. » Tout ce qui est bon, tout ce que nous avons, tout ce qui est vivant, tout ce qui remplit nos vies, nous vient de Dieu. Dieu est généreux. Et il donne sans calcul de rentabilité ou de retour. J'ai déjà dit ça, mais souvent quand j'étais plus jeune et puis que j'étais un peu déçu, maintenant, je suis plus vieux, je le suis moins, j'entendais des gens non-croyants, super doués, faire des super musiques, des super chansons, etc. Et puis les chrétiens, nous, on est nuls, souvent. Et mais si j'étais Dieu, j'aurais donné les dons à des gens que je savais qu'ils allaient devenir croyants. Hein, c'est évident, quoi. Les meilleures voix, les meilleurs instruments, les meilleurs créateurs. Il y en a aussi, bien sûr. Hein, mais non, Dieu distribue ses dons, son soleil pour tout le monde, l'oxygène pour tout le monde, enfin, quand on en laisse un peu. Ça, c'est pas sa faute à lui, et puis, etc. Il est généreux, sans calcul de « Ah, je donne à lui parce qu'il va me rendre ça. Hein. » Bien sûr, ça, c'est pas de la générosité. Mais c'est le point de départ d'une attitude de vie généreuse, réelle, pas forcée, hein, pas politique ou pas culturelle. Une vraie générosité qui est une façon de vivre dans le cœur. Ça part, bien sûr, du point de départ qui est « Dieu est généreux ». Et il donne, et il donne, et il donne. Et tout ce que j'ai me vient de lui. Donc ça, c'est quelque chose qui est le point de départ. Lorsque il s'est passé ce qui nous est raconté dans le livre de la Genèse, qu'on appelle des fois la chute, mais en tout cas, lorsque l'être humain a choisi de vivre décentré de Dieu, il avait été prévu pour être en orbite autour de sa personne, et puis il a décidé qu'il serait lui-même le centre de sa vie et qu'il allait tourner autour de lui-même. Il y a eu beaucoup de conséquences négatives, mais l'une d'entre elles, c'était la peur. Première chose, il prend conscience qu'il est nu, il entend la voix de Dieu, il a peur et il va se cacher. Enfin, je dis lui et elle, Adam et Ève, nos ancêtres. La peur et se cacher. Et la peur est une des choses qui détruit la générosité. Parce que si je pense que demain, peut-être, je n'aurai pas assez, je ne vais pas donner. Si j'ai peur si je présente cet ami à cet ami, alors ça ne sera plus que mon ami à moi, ben, je ne le présente pas. Et c'est dans tous les domaines. Et j'aimerais ce matin, chaque fois que on parle de générosité, que vous ne pensiez pas uniquement à l'argent. Parce que c'est une chose importante, mais ce n'est pas du tout l'essentiel. C'est juste une attitude générale. Et après, ça s'applique aussi à l'argent, mais ce n'est pas de ce point-là que je veux parler ce matin. Donc, la peur, et puis, en même temps, le fait qu'on ait expulsé Dieu du centre de nos vies, ça a créé un vide qui se traduit chez nous, humains, par un sentiment d'insatisfaction, vie d'insatisfaction, j'ai envie de. Vous savez, ces moments où on ne se sent pas bien et on ne sait pas pourquoi. Je ne parle pas justement quand il y a des épreuves dans nos vies où on est remué, mais on sait pourquoi. Mais ces moments où ça ne va pas trop mal dans nos vies, mais on se sent vide. Et là, on a envie de manger, écouter de la musique, consommer, dire du mal de quelqu'un, boire un coup. Enfin, trouver quelque chose pour remplir ce vide. Et si on met ensemble la peur et le vide, ça amène à l'égoïsme, ça amène à essayer de s'occuper de soi. Et c'est pour ça que je disais ce morceau de ces textes dans la chanson de Laura Gagné, qui décrivent bien « Je cherche une chose et en la cherchant, je détruis ce que je cherche. » Moi, je voudrais ça. Et Dieu dit « Mais c'est de ça que tu as besoin. » J'aimerais être tranquille, il me dit non, tu as besoin de ma paix. J'aimerais que tout aille bien, non. Voilà. Et la générosité est un fruit. Ce n'est pas mentionné dans le fruit de l'esprit, mais c'est quand même un fruit de la vie de Dieu en nous. Ce que j'aimerais préciser, c'est que la générosité, c'est pas le fait de donner sous la contrainte morale ou spirituelle. Parce que c'est une chose qui peut se passer. Hein, on peut mettre un poids sur les gens, il faut donner, il faut être généreux, il y a des besoins. Oui, vous pensez que vous êtes pauvre, mais en Afrique, ils sont plus pauvres que vous. Oui, vous... Et puis, les gens vont donner parce qu'ils sont gentils, parce qu'ils sont manipulés, parce qu'on leur, ouais, on les culpabilise. C'est triste. Et ceux qui donnent, ben, ils ont quand même donné. Mais c'est en tout cas pas ce que Dieu veut. Chaque fois que la Bible parle de générosité, elle y associe la joie. La générosité, c'est le fait de vivre ce que Jésus a dit, il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Et c'est pour ça que je dis l'argent, c'est un tout petit bout. Hein. Mais c'est quelque chose qui est tellement essentiel, parce que dans les relations, la générosité est essentielle. Les gens qui cherchent à entrer en relation, en communion, en contact avec les autres, juste parce qu'ils se sentent seuls, ou juste parce qu'ils ont besoin de quelque chose. Alors, ben, des fois, ce n'est pas grave. Et puis, il y a tous des moments où on est dans cette situation-là, attention. Hein. Mais de façon générale, ce qui fait justement qu'une relation humaine va être riche, c'est quand on est généreux dans la relation. Je ne viens pas juste parce qu'il me manque quelque chose, mais je viens aussi dans cette relation parce que bah, ça me fait plaisir de faire plaisir. Hein. Dans un couple, si on ne découvre pas ou si on n'a pas découvert ça, mais c'est la catastrophe. Si mon plus grand plaisir, ce n'est pas de donner du plaisir à l'autre, mais je passe à côté de tout. Ça va être terrible. Mais en même temps, si deux personnes qui sont en relation le comprennent, c'est magnifique. Parce que moi, je ne suis pas préoccupé, mais occupé par la joie de donner à l'autre. Puis si l'autre fait la même chose, ben, je reçois aussi. Mais ce n'est pas ma préoccupation à moi. Hein. Encore une fois, on revient sur les mêmes choses. Dans le royaume de Dieu, le verbe « prendre » n'existe pas. On donne et on reçoit. On donne et on reçoit. Et c'est pour ça que c'est méchant de prendre. Dieu ne nous prend rien. Il nous a tout donné et il ne nous prend rien. On lui rendra des comptes un jour, hein. Mais il ne prend pas. Il donne et il attend. Et si on veut lui rendre un tout petit peu de ce qu'il nous donne, alors il le prend avec plaisir. Hein. C'est pour ça qu'il y a cette belle expression dans les vieilles traductions, dans le Nouveau Testament, « rendre grâce ». Rendre grâce, c'est être conscient que tout ce que j'ai est une grâce de Dieu, et je décide, parce que ça me fait plaisir, d'en redonner un petit peu. Mais parce que Dieu sait que nous, les humains, avons besoin d'être rassurés, il établit ce principe, là encore, qu'on cite souvent pour l'argent, mais qui est valable pour tous les autres domaines, dans 2 Corinthiens 8:12, il est dit ceci, « Dieu aime lorsqu'on donne de bon cœur. Dieu accepte ce don en tenant compte de ce que l'on a et non de ce que l'on n'a pas. Il n'est pas question de vous réduire vous-même à l'extrémité pour que d'autres soient soulagés. Il s'agit simplement de suivre le principe de l'égalité. Dans la circonstance présente, par votre superflu, vous pouvez venir en aide à ceux qui sont dans le besoin. Aussi, par leur superflu, ils pourront un jour subvenir à vos besoins. Ainsi s'établit l'égalité. Suivant cette parole de l'Écriture, celui qui avait ramassé beaucoup de manne n'en avait pas de trop, et celui qui avait ramassé un peu ne manquait de rien. » Et là, on a un fondement important pour la générosité. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Et on ne doit pas se sentir coupable de ne pas donner ce qu'on n'a pas. Financièrement, bien sûr, déjà, mais aussi... Alors, ça semble dire le contraire de ce que j'ai dit avant, mais non, ce n'est pas le contraire. Hein? Aussi dans les relations. Les vrais amis, c'est des gens avec qui, quand je suis heureux, j'ai une bonne nouvelle, ça va bien, il y a une bénédiction dans ma vie, il y a quelque chose qui me fait plaisir, je les appelle pour les partager. Mais c'est aussi les personnes à qui je peux aller les voir et leur dire « ça ne va pas aujourd'hui ». Je ne peux rien donner, j'ai rien donné, moi ça ne va pas. Hein? Mais je viens te voir. Et ben, ça peut arriver que les deux aillent mal en même temps, mais souvent pas. Et l'autre peut dire, ben, aujourd'hui, ben, moi justement, et voilà. Et l'autre peut donner. D'accord ? Donc on doit, pour pouvoir être réellement généreux, accepter qu'il y a des moments dans nos vies où on est pauvre et où on doit recevoir des autres. Parce que si je ne sais pas accepter ça, je ne vais pas donner comme il faut. Hein. Si je donne, mais moi je ne peux pas recevoir, parce que non, ça, c'est trop humiliant de recevoir, puis je ne mérite pas de recevoir, ou je ne sais pas quelle que soit la raison. Alors si je ne reçois pas comme ça, ça veut dire que je ne donne peut-être pas de la bonne façon. C'est quand même utile de continuer de donner. Mais ça veut dire que quand je donne avec supériorité. Oui, ouais, j'aide les pauvres. Lui, sans seul, je vais lui donner un quart d'heure. Ce n'est pas de la générosité, ça. Hein. C'est pour apaiser ma conscience. Donc, la règle qu'établit l'Écriture, elle est magnifique. C'est que quand j'ai ce qu'il me faut pour moi maintenant, tout ce qui est en plus, c'est pour les autres. Quand je n'ai pas ce qu'il me faut, ben, je n'ai pas ce qu'il me faut. Et peut-être que les autres ont ce qui me manque. Vous voyez ? Et ça, c'est quelque chose qui est extraordinaire parce que c'est quelque chose qui aide à la communion, qui aide au partage. Parce que lorsqu'on vit ça avec quelqu'un, ben, aujourd'hui, il a un peu trop, mais moi, je n'ai pas assez, alors il me donne, mais demain, j'ai un peu plus et lui, il n'a pas assez, je lui donne. Ben, ça crée des vrais liens. Parce que j'accepte d'être vu par l'autre comme quelqu'un qui n'a pas toujours ce qu'il faut, qui n'est pas toujours à la hauteur, qui n'y arrive pas tout le temps. Et puis l'autre est lui aussi dans cette position des fois. Et il se crée une vraie communion qui n'est pas un marchandage ou un échange. Ah, hier je t'ai aidé, aujourd'hui c'est à moi. Alors, non, il n'y a pas de quantité dans ce principe-là. Hein. C'est tiré, ce principe, Paul le prend de lorsqu'il ramassait la manne dans le désert, et puis il y en a qui ramassaient plus, d'autres pas assez. Hein. Mais on peut imaginer qu'il y a des gens, c'est assez facile à imaginer, il y a des gens qui étaient des bons ramasseurs de manne, et puis tous les jours ils en avaient beaucoup trop. Ben, c'est super, ils avaient reçu de Dieu un don de ramasseur de manne, et puis ils en partageaient beaucoup. Et puis il y a des gens, ben, ils n'étaient pas doués pour ramasser la manne, et puis voilà. Hein. Et ça n'a rien à voir avec la paresse ou la fainéantise de se dire « Oh ben je reste couché, de toute façon il y en a qui en ramassent trop. » Ça, c'est pas ce que Dieu veut, bien sûr. Hein. On est encouragé à tous faire ce qu'on peut faire. Mais pas faire ce qu'on ne peut pas faire, et pas donner ce qu'on n'a pas, et pas donner plus que ce qu'on a. Et ça se traduit dans plein de domaines. Hein. C'est pour ça que je dis souvent, par exemple, dans les activités de notre petite communauté, on n'est pas très nombreux. Quand on faisait, à l'époque où ça paraît loin, hein, on pouvait encore se rassembler normalement, et puis qu'on s'occupait des enfants dans le local en dessous, je disais à Sophie qui fait le programme, je ne veux pas que tu mettes la même personne plus d'une fois par mois. S'il y a un dimanche, il n'y a personne, il n'y a personne. Si ça ne se fait pas, ça ne se fait pas. Mais on ne peut pas comme ça prendre à quelqu'un parce qu'il est prêt. Non. On donne ce qu'on a, pas plus. Et puis s'il n'y a pas, il n'y a pas, puis c'est Dieu qui pourvoit. Ou alors on assume nos choix. Hein. Mais ça s'applique dans beaucoup, beaucoup de domaines. Et ça nous amène à autre chose. Puisqu'on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas, alors on devrait recevoir. Et la mesure de Dieu, c'est un très, très beau mot dans la Bible, c'est la plénitude. Dieu aime nous remplir et nous remplir jusqu'à déborder. C'est intéressant parce que ça rejoint la définition de la permaculture. Vous vous rappelez la permaculture ? Générer de l'abondance dans le but de la partager. C'est très différent du capitalisme. Générer de l'abondance dans le but de la stocker pour augmenter l'abondance. Ceux qui pensent que le christianisme et le capitalisme sont synonymes sont très 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 loin du compte. Hein. Je ne vais pas faire de débat là-dessus, je ne suis pas compétent. Mais non, générer de l'abondance dans le but de la partager. Parce que c'est ce que Dieu a fait. Il nous a donné la terre qui produit tout ce qu'il faut, il nous a donné la vie qui se renouvelle, il nous a donné des capacités physiques, intellectuelles, etc. pour que les choses se multiplient. Mais dans quel but ? Que chacun ait ce qu'il lui faut, et que si quelqu'un a reçu des dons qui font que, ben avec les 5 talents qu'il a eu, il peut en produire 5, ben ça veut dire qu'il en a 4 à donner, puis il en reste un pour lui, puis celui qui, avec 3, en fait 3, il en a 2 à donner, il en reste un pour lui, et etc. etc. Hein? Le but, ce n'est pas de stocker, c'est de donner. Parce que Dieu, lui, donne toujours, et ce qu'il veut, c'est nous remplir, et que ça déborde. Et la beauté de cette façon de faire, remplit et puis ça déborde, hein, c'est que d'une part, bien sûr, si je suis plein et que ça déborde, ben moi je suis plein, donc je n'ai pas peur. il n'y a plus de vie dans moi, puisque je suis plein, et ça déborde. Mais aussi, ça me protège de, excusez-moi l'expression, du pourrissement. Parce que si lorsque je suis rempli, je ferme les vannes d'un côté et de l'autre, puis je dis « ça y est, c'est plein, il faut que je le garde ». Qu'est-ce qui se passe quand de l'eau, on remplit un récipient et puis on le garde, hein ? Ça devient vivant, mais pas de la vie qu'on aime. Hein ? Les algues s'y mettent, les petites bestioles, les moustiques viennent y pondre, etc., etc. Ça devient de l'eau croupie. Et puis on est « ah, mais c'est la mienne, c'était plein, je la garde ». Mais c'est bête. Il y a un verset que j'ai longtemps... Enfin, pas que je n'ai pas compris, mais je trouvais ça étrange. Hein. Je crois que c'est les psaumes, je ne sais pas la référence, bien sûr. Qui dit « Les ruisseaux de Dieu sont pleins d'eau ». Alors le gag, c'est que quand j'étais gamin, j'avais des amis chrétiens qui avaient... Tu sais, c'était l'époque des grands posters avec des versets. Hein. Puis ils avaient mis ce verset... dans leur toilette, juste à côté de les bénédictions de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Puis je trouvais ces deux posters dans des toilettes très appropriés. Les ruisseaux de Dieu sont pleins d'eau. On pourrait se dire, ben, un ruisseau, c'est fait pour être plein d'eau. Un ruisseau, ça peut être à sec. Hein, mais les ruisseaux de Dieu sont pleins d'eau. Dieu est un Dieu de plénitude. Il veut nous remplir et il faut que nous apprenions à ne pas avoir peur, plus avoir peur, la foi c'est la confiance, hein. Il y aura toujours de l'eau, il prendra soin de nous, il nous l'a dit, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde, de votre monde à vous, je prendrai soin de toi, ne vous inquiétez pas du lendemain, etc., etc. Alors, prends ce que tu as besoin aujourd'hui que je te donne, laisse-toi remplir, parce que tant qu'on n'est pas plein, on n'est pas plein, mais laisse aussi déborder et sois généreux, retiens pas pour demain. Demain, prendra soin de lui-même et je te remplirai encore. Sinon, oui, alors oui, aujourd'hui je suis plein, je garde. Et puis on est tout content, c'est plein. Puis d'abord ça s'évapore, c'est plus plein, et puis c'est pourri, puis ça croupit, puis c'est pas bon. Et puis je suis seul, et puis j'ai peur des autres, et puis maintenant je dois engager des gens pour protéger ma citerne qui est pleine parce que j'ai peur qu'on vienne me voler mon eau pourrie. Ah, non, juste laissons les choses couler, mais apprenons à être rempli. Je parle souvent de ces points dans nos vies, hein, c'est pas continu, ces moments où on est dans la conscience de la présence de Dieu et on est tellement satisfait, rassasié, David dit comme un enfant repu sur le sein de sa mère, que dans ce moment-là, ponctuel, on peut dire « il me manque rien ». Là, je pourrais mourir maintenant, je suis... satisfait. Hein. J'ai besoin de rien, j'ai tout ce qu'il me faut là, maintenant. Dans un quart d'heure, je vais avoir besoin d'autre chose, j'aurai de nouveau faim, soif, etc. Mais là, j'ai ce qu'il me faut. Hein. Et ça, c'est la mesure de Dieu. Mais là, souvent, il veut encore en rajouter une part pour que ça déborde. Et puis que ce soit une bénédiction pour les autres. Alors, nous devons apprendre à nous laisser remplir jusqu'à la plénitude. Juste un petit texte, Éphésiens 3, 17. Hein, que le Christ habite dans vos cœurs par la foi. Que vous soyez enracinés et solidement fondés dans l'amour. Vous serez ainsi à même de comprendre avec tous ceux qui appartiennent à Dieu combien l'amour du Christ est large, long, élevé et profond. Oui, vous serez à même de connaître cet amour qui surpasse tout ce qu'on peut connaître. Et vous serez ainsi remplis de toute la plénitude de Dieu. J'aime beaucoup cet apparent paradoxe. Hein. Il faut que vous compreniez que vous ne pouvez pas comprendre la taille de l'amour de Dieu. Essayez de le mesurer et vous allez voir, c'est infini. Donc, puisque c'est infini et que nous sommes finis, vous pouvez être remplis de toute plénitude et puis ça peut déborder. Et ça doit être la mesure qu'on désire. Quand je m'approche de Dieu... Alors, c'est pour ça qu'il faut que je pose les bonnes questions. Je dis, je veux une vie sans problème. Et Dieu dit, non, je veux pour toi une plénitude de paix. Ouais, je veux pas... Non, je veux une plénitude d'espérance, une plénitude de joie, une plénitude d'amour. Et tu en reçois, et ça déborde, et tu peux partager ce fruit de l'esprit qui vient en toi. Et tout est une question d'amour, en fait. Regardez, et je vais terminer, c'est le dernier point. Hein. Une chose importante aussi pour vivre dans la générosité, j'ai commencé en disant comprendre que tout ce qu'on a nous vient de Dieu et que ses ruisseaux ne seront pas à sec et puis que tout ce qu'on a, il nous l'a donné. Mais il y a une autre chose importante à comprendre pour nous humains, nous sommes étrangers et voyageurs sur cette terre. Et Paul le dit à Timothée, tu es arrivé tout nu dans ce monde, rien tu avais. Et quand tu partiras, rien non plus tu emporteras. Et c'est aussi pour ça que c'est intelligent d'être généreux. Jésus parle de cet homme qui se dit « Ah, maintenant je suis riche, mes greniers sont pleins, je vais en construire d'autres, et puis j'ajouterai, et puis comme ça. » Et puis il dit « Mais quel homme stupide. Cette nuit, tu vas mourir et tu feras quoi avec tes 12 greniers de plus ? Tu vas les léguer à ton fils qui va les dépenser en allant boire et ça va ruiner sa vie et il va finir malheureux. » Pas de sens. Donc oui, il nous faut ce qu'il faut, mais en même temps, on se rappelle, on est de passage. Notre maison, ce n'est pas ici, la maison définitive. Ici, on est des escargots. Même quand on retape une maison, c'est juste une petite coquille qu'on traîne sur son dos un moment, mais à un moment, on va la laisser. Ce n'est pas la vraie. C'est pour le moment. Et Dieu sait qu'on a besoin d'une pour le moment, alors il se débrouille. Hein. Mais ce n'est pas la vraie. À un moment, on va devoir poser le sac à dos, l'escargot redevient limace, et puis pouf, on laisse la maison, parce qu'il y en a une vraie. Je m'en vais vous préparer une place. Si ce n'était pas vrai, je vous l'aurais dit. Hein ? Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez en moi. C'est Jésus qui parle, ce n'est pas moi, bien sûr. Hein, Jean 14. Notre vraie maison, la sécurité qu'on rêve, où toujours tout va bien, tout le temps, tout ça. Oui, ça existe. Pas ici. Ici, on a autre chose. On peut être rempli jusqu'à la plénitude. Et puis manifester la bonté de Dieu en le redéversant avec générosité. Alors, dans ce même texte où Paul parle à Timothée, hein, il dit « La véritable foi en Dieu est en effet une source de richesse quand on sait être content avec ce qu'on a. » Bien entendu, quand on a assez pour ce qui est réellement nécessaire. On ne peut pas dire à quelqu'un qui a faim « Écoute, tu dois être content avec ce que tu as. » Non, donne-lui à manger si toi tu en as plus que pour toi. Hein. Nous n'avons rien emporté dans ce monde, nous ne pouvons rien emporter. Tant que nous avons nourriture et vêtements, nous nous en contenterons. Ceux qui veulent à tout prix s'enrichir, s'exposent eux-mêmes à la tentation, tombent dans le piège de nombreux désirs insensés, pernicieux, qui précipitent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est la racine de toutes sortes de maux. Pour s'y être abandonnés, certains se sont égarés très loin de la foi et se sont infligés beaucoup de tourments. L'amour de l'argent. Il ne dit pas que l'argent est un problème. L'argent, ce n'est pas un problème. C'est un problème quand on n'en a pas, effectivement. Pas assez pour la nourriture, le vêtement et les choses essentielles là où on vit. Hein. Mais sinon, c'est super d'être riche pour pouvoir donner plus. C'est magnifique comme ça. Et ça existe. J'ai eu la chance de connaître un homme multimillionnaire qui vivait encore plus simplement que moi quand je vivais en Roumanie. Et son plaisir, c'était de donner. Bon, ce n'était pas de l'argent qui était à lui, la vérité. Enfin, je dirais, c'était comme ça, quoi. Mais voilà. Il visitait une ferme en Moldavie, et puis les gens mouraient de faim, il leur offrait un tracteur. Et il ne savait pas que c'était lui qui l'offrait, hein, bien sûr, ça arrivait par d'autres moyens. C'est beau de voir des gens riches qui sont généreux, il y en a. Hein. Ce n'est pas une question de richesse ou de pauvreté, mais c'est une question d'amour. Où est mon cœur ? Là où est mon cœur, là sera mon trésor. Et si mon cœur se tourne vers ce que Christ me donne, et si je suis rempli par lui, alors je vais pouvoir vivre une vie généreuse. Et la générosité fait que la vie est agréable. Vivre avec des gens généreux, c'est agréable. Je peux en témoigner. Qu'est-ce que c'est bien, hein ? Mais pas pour dire « Ah ben je prends tout pour moi !» Non, c'est que ça nous pousse nous aussi à dire « Mais en fait, j'ai du surplus moi aussi. » Qui a besoin aujourd'hui, hein ? Et je ne stocke pas parce que demain, Dieu prendra soin. Et puis, comme ça, on avance. Et je crois que parmi les réflexions qu'on a souvent sur comment on pourrait témoigner, ça fait partie des choses qui sont essentielles parce que c'est quelque chose qui se remarque. En ce moment, comme j'ai déjà dit, hein, mais j'ai plusieurs personnes autour de moi qui ne sont pas croyants qui me disent « Mais c'est incroyable, tu as des gens qui viennent de partout pour t'aider. Comment ça se fait ?» Ben, ça se fait parce qu'ils sont généreux. Et ils sont généreux parce qu'ils connaissent celui qui est généreux et ils partagent leur richesse et ce qu'ils ont, etc. Et c'est magnifique. Alors je nous encourage à vivre dans la générosité et encore une fois, pas ramener ça juste à il faut donner plus ou moins d'argent, etc. C'est pas du tout une question là. Mais c'est vivre généreusement dans tous les domaines de nos vies. Je reçois avec qui je peux partager ce qu'il y a en plus. D'abord être rempli, mais et puis partager encore avec les autres. Seigneur, merci parce que ta générosité, elle est magnifique, elle est sans limite. Et tu donnes sans compter, sans rien attendre en retour, sans calcul. Tu n'es pas un investisseur, tu es un donneur généreux. Point. Et nous voulons te ressembler, nous voulons apprendre à donner, à être généreux avec ce que tu nous donnes. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas, mais à être des bons administrateurs de tout ce que tu nous donnes, de notre temps, de nos relations, de nos dons, de notre argent, de nos priorité dans toutes choses. Nous voulons que la générosité, la tienne, celle qui vient de toi et qui est accompagnée de la joie de donner, puisse nous habiter et être une caractéristique connue de nos vies, Seigneur. Et pour ça, nous avons besoin de toi. Si tu ne nous remplis pas, nous sommes vides. Si tu ne nous satisfais pas, nous ne sommes pas contents. Et voilà, nous voulons encore une fois nous remettre à toi et te demander que tu nous remplisses de ta paix, de ta joie, de ton amour, Seigneur.